le journal Mireille Boukassa.
La démolition des maisons annoncée par l'hôtel de ville de Kinshasa a commencé cet après-midi. Le site Temena Tembe à Lingwala et le site Inga à Bandal sont les premiers touchés par cette mesure. Les étudiants de Kisangani ont manifesté ce mercredi à l'Uniki, ils dénonçaient un détournement d'argent par leurs représentants et à l'IBTP, ils protestaient contre des propos tenus contre eux par le conseiller du chef de l'État chargé des infrastructures. Début du 4e congrès international des pathologies infectieuses et parasitaires ce mercredi à Kinshasa. L'objectif est d'intégrer les chercheurs congolais dans le mouvement général de la recherche médicale internationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé par l'hôtel de ville de Kinshasa, la démolition des maisons a débuté cet après-midi. Les premières maisons visées sont celles du site Temena Tembe, le long de la route menant vers le palais du peuple et l'église du centenaire protestant, et aussi celle du site Inga à Bandal, sous la ligne haute tension. L'opération s'est déroulée en présence des agents de l'hôtel de ville, des propriétaires des maisons concernées et de nombreux policiers. Baben Pongo, qui était sur le lieu, nous en parle.
Les premières maisons s'écroulent sur le site Temena Tembe sous l'assaut de deux bulldozers de l'hôtel de ville.
Au nom de la loi, je le répète encore, 10 minutes, quittez le lieu.
Les quelques habitants et des enfants traversent en hâte la rue avec des assiettes et habits noués dans des pannes. En face du site, une famille est assise sur un tas d'habits. Le regard fixé vers leur demeure en destruction, une fillette essuie une larme. Sa mère. J'ai 6 enfants, on casse notre maison, c'est pour que je devienne folle ou quoi? La consternation, c'est ce qu'on peut lire sur les visages des propriétaires des maisons en construction, la plupart en étage. Ils disent ne rien comprendre à la mesure de l'autorité, car ils disposent de tous les documents nécessaires.
On a acheté dans les normes, on a des documents. On va aller à la justice. Nous allons poursuivre celui qui nous a vendu les terrains parce que c'est son domaine privé.
Pour le général Oleko, inspecteur provincial de la police arrivé sur le lieu, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est l'application de la loi.
C'est mon devoir. J'accompagne l'accomplissement de toutes les décisions de l'autorité. Et j'encadre, je sécurise.
L'opération s'est poursuivie à Bandal sur le site Inga, dans l'espace compris entre l'église Saint-Michel et l'avenue Kassavubu sous la ligne haute tension. La prochaine étape, selon le communiqué de l'hôtel de ville, le site Badara, vers l'aéroport de Njili.
À Kisangani, vive manifestation ce matin à l'université ainsi qu'à l'Institut supérieur des bâtiments et travaux publics. À l'UNIKIS, un groupe d'étudiants accusait leurs représentants du détournement d'une somme d'argent qu'ils auraient reçue du chef de l'État après une rencontre ce matin à Kisangani. Et à l'IBTP, c'est des étudiants qui protestaient contre des propos jugés injurieux qu'aurait tenus à leur endroit le conseiller du chef de l'État chargé des infrastructures lors de sa visite hier mardi dans les locaux de cette institution. Le bilan fait état de 2 fracturés, plus de 5 blessés et des dégâts matériels assez importants. Jacques Nkonkole nous parle de ces manifestations.
Ce mercredi matin vers 9h, des barricades ont été érigées à la hauteur de l'IBTP sur le boulevard du 30 juin, empêchant ainsi tout passage. Des étudiants protestaient ainsi contre les propos du conseiller du chef de l'État en charge des infrastructures. Propos tenus mardi lors de sa visite dans les locaux de leur établissement et jugés injurieux envers leur institution. La police est intervenu. 2 étudiants, dont une fille, ont été blessés, selon le DG de l'IBTP. Mais les étudiants avancent quant à eux un bilan de 7 blessés. Des vitres et des écritoires ont été également cassés. Certains étudiants affirmaient avoir perdu leur téléphone et de l'argent. La situation ne redevenue normale que vers 15h locales après la visite du conseiller du chef de l'État à l'IBTP. Selon le DG de cette institution, il aurait présenté des excuses pour ses propos mal interprétés. Autre point chaud, l'université de Kisangani, où les climats s'est fortement tendu ce mercredi entre les étudiants et les étudiants finalistes. Ce dernier affirme que leur représentant a détourné 30 000 dollars américains reçus du président de la République pour leurs travaux de fin d'études. Patrick Matata rejette ces allégations. Les autorités académiques de l'UNIKIS sont saisies de l'affaire et promettent de rendre leur arbitrage. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Plus de 60 armes blanches remises hier par les habitants de Niaya, Labo et de Gawa, 3 localités situées à environ 300 km au nord de Bunia en territoire d'Aru. Ces armes ont été remises à la commission des médiations composée des autorités coutumières locales de la place. Rappelons qu'en mars dernier, les habitants de Niaya et de Labo ont incendié plus de 220 cases à Gawa. C'était suite à un conflit de terres datant de plusieurs années. Selon le président de cette commission, ce geste marque l'engagement des deux communautés à mettre fin aux hostilités. Isaac Remoyope nous parle de cette cérémonie de remise d'armes.
Les armes blanches remises sont constituées essentiellement de flèches et d'arcs. Elles ont été rassemblées par les chefs coutumiers à l'issue des travaux de consultation initiés depuis environ un mois par la commission des médiations. Selon le président de cette commission, la remise de ces armes est un signe positif qui marque la fin des hostilités entre les habitants des localités à conflit pour une paix durable dans la région. Likambo Araba, chef des collectivités de Kumuru, joint au téléphone.
Ce geste de remise des armes blanches constitue déjà un arrêt des hostilités de part et d'autre. Voilà, c'est un acquis pour nous. Parce qu'ils ont déposé déjà les armes et nous passons que vraiment ça tend vers le côté positif. Notre mission principale, c'est de voir que les hostilités puissent cesser, de peur que ça ne puisse embraser les autres collectivités ou le territoire d'Algéral et que les mal intentionnés ne puissent pas profiter pour entrer et amplifier la situation.
Selon la même source, les habitants de Niaïa et de Labo se sont également engagés à réparer les dommages causés dans la localité de Gawa au mois de mars dernier. Rappelons que les habitants de Niaïa et de Labo avaient incendié plus de 200 cases à Gawa. C'était pour protester contre l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Kisangani qui donnait raison aux habitants de Gawa sur le conflit des terres qui les oppose depuis plusieurs années. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Il y a encore beaucoup à faire pour réorganiser les forces armées de la RDC. Grande carence d'administration, infrastructures délabrées, armement périmé à détruire, misère sociale. Ce tableau peu reluisant résume le premier état des lieux des FRDC fait dans la province du Katanga par l'ESSEC, la mission d'assistance et de conseil de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en RDC, a publié son premier rapport hier mardi à Lubumbashi. Dona Chimboge nous parle de l'essentiel de ce rapport.
Son premier rapport rendu public ce mardi à Lubumbashi résume l'état des lieux fait par la mission d'audit conduite conjointement par l'état-major général des FARDC et une mission européenne. Cette mission a visité du 8 au 24 mai 2007 tous les bataillons basés au Katanga. Les principales observations présentées concernent plusieurs domaines. D'abord, l'administration du personnel. Elle souffre des graves carences amplifiées par des déplacements vers des centres de brassage et une absence criante des supports logistiques, des infrastructures complètement délabrées. Ensuite, le social. Les militaires et leurs dépendants se retrouvent pour la plupart dans une grande misère sociale. Enfin, l'armement. Les équipes d'audit ont pu constater la présence de beaucoup d'armements obsolètes regroupés en attente de destruction. Même les mines antipersonnelles. D'où la recommandation de relancer les opérations de leur destruction.
L'insécurité à l'est du pays, particulièrement à Goma, entrave le déroulement normal de la justice. Défenseurs des droits de l'homme et magistrats ont du mal à travailler. C'est un constat fait par le chargé de programme Afrique à la Fondation nationale pour la démocratie, une ONG internationale basée aux États-Unis. Selon Olivier Karana, la peur des magistrats et des activistes des droits de l'homme a dénoncé des cas de violation des droits de l'homme commis notamment par des militaires, demeure l'un des plus gros obstacles que rencontre la justice. Au micro de Gisèle Cage, Olivier Karana explique comment l'absence d'une présence réelle de l'État à l'Est est un frein à la justice.
Comment voulez-vous qu'un juge travaille dans la sérénité si demain la ville tombe entre la main d'une autre autorité? Comment travailler dans la sérénité en tant qu'ONG si demain l'État ne se fait pas sentir pour garantir la sécurité de tous les citoyens? Dans mon expérience, il faut que Kinshasa se fait sentir ici. On a l'impression que le gouvernement lui-même, par sa présence, par une plus forte présence peut-être militaire et administratif, se fait sentir ici pour que les tracasseries des militaires démunis, pour que la population puisse avoir confiance que les militaires sont là pour les protéger et que toute menace de rébellion ou de menace de guérilla cesse dans la zone.
Nous le disions en titre, le 4e congrès international des pathologies infectieuses et parasitaires a débuté ce mercredi à Kinshasa, organisé par l'Institut national des recherches biomédicales INERBE. Ce congrès de 3 jours connaît la participation des chercheurs venus d'Amérique et d'Europe. Les chercheurs congolais veulent aussi s'intégrer dans le mouvement général de la recherche médicale internationale. Professeur Mouyembe, directeur de l'INERBE, nous en donne les objectifs. Il est au micro de Jocelyne Moussao.
Par ce congrès, nous cherchons à voir un échange d'expérience entre les hommes de terrain qui sont des médecins, des épidémiologistes qui sont sur le terrain pour lutter contre les épidémies, contre les maladies endémiques comme la maladie du sommeil, comme le paludisme, et les gens qui sont dans les laboratoires, par exemple les chercheurs qui sont à l'INERB. Également, avoir l'expérience d'autres chercheurs qui sont dans le milieu beaucoup plus scientifique, comme ceux qui travaillent aussi d'ici à 30 ans aux États-Unis, et ceux qui sont à NIH aux États-Unis et les chercheurs et épidémiologistes qui sont à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et des Bâles en Suisse. Voilà, c'est un peu ça. Donc mettre tous ces gens ensemble pour qu'ils puissent réfléchir, donner leur expérience dans la lutte contre les maladies.
Le professeur Muyembe estime que le fait que le congrès a une dimension internationale et que plusieurs chercheurs internationaux s'intéressent maintenant à ce que font leurs collègues congolais prouve que la RDC fait beaucoup de progrès dans le domaine. Santé toujours, SOS du médecin chef de zone de santé de Ngandajika pour un appui urgent à l'hôpital général de référence de Kalambaï-Kabanga. Ce centre hospitalier est dans un état de délabrement très avancé. Il y manque des équipements nécessaires pour la prise en charge des malades. À la maternité, les femmes accouchent à même le sol. Le docteur Marie-Albert Chizemba décrit la situation de l'hôpital. Il est au micro de Julien Nyamouini.
Cet hôpital manque de ressources de réhabilitation. Il n'est que constitué des murs de nature ancestrale et qui mérite et qui requiert bien une réhabilitation. Les malades dorment à même le sol, ne savent à quel sens se vouer. Manque d'équipement, même le kit chirurgical manque et des cas chirurgicaux conduisent très facilement à la mort puisque les malades doivent être référés à plus de 60 km pour la prise en charge correcte. Nous avons des maternités sans équipement aucun, ces maternités qui pourtant accueillent des dames qui accouchent sur les nattes avec un grand risque accru d'infection materno-néonatale. Cet appel nous lançons en direction de tous les organismes, tant nationaux qu'internationaux.
Le Programme alimentaire mondial vient de lancer un nouveau programme pour la RDC. Près de 210 000 tonnes d'assistance alimentaire devront être distribuées d'ici 2009 aux populations vulnérables, c'est-à-dire les femmes victimes de violences, des enfants ainsi que des déplacés de guerre. L'objectif est d'aider plus de 3 millions de personnes en insécurité alimentaire, affirme le représentant du PAM en RDC. Charles Vincent est au micro de Adia Chipoukou.
Notre objectif, c'est d'aider à peu près 3 300 000 personnes vivant dans l'insécurité alimentaire. Deuxièmement, réexploiter le transport fluvial, lacustre et ferroviaire. Car pour atteindre les populations nécessiteuses, il faut souvent réparer un bac, un pont, réhabiliter une petite route. Nous allons rester engagés dans ce domaine avec nos partenaires. Troisième volet, c'est notre stratégie de stimuler les achats locaux. Nous pensons que le moment est venu et nous avons l'accord et le soutien du gouvernement, des différents ministres, pour acheter localement quand cela sera possible, pour qu'il y ait un double effet positif. Aider les personnes qui n'ont rien à manger, bien sûr, mais également stimuler la production locale pour que justement nous puissions amener, mais également que l'économie locale redémarre.
Les présidents des assemblées provinciales de la RDC soutiennent l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental dans l'affaire qui l'oppose au gouverneur de cette province, Trésor Kapuku. Dans une déclaration faite en marge de leur séminaire de renforcement de capacité tenu la semaine dernière à Kinshasa, les présidents des assemblées provinciales exigent le respect de la Constitution. Edmond Mondombo Kanza, président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, est joint au téléphone par Marie-Chantal Lumba.
Le Congo est un état de droit et de droit écrit. Nous avons une constitution qui nous dit ce que doivent faire toutes les institutions. Au niveau de la province, nous avons deux institutions, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Il faut que ces deux institutions travaillent conformément à la loi. Si l'Assemblée provinciale du Canada a fait son travail conformément à la loi, eh bien, il n'y a pas une autre institution qui peut contrecarrer le travail de cette assemblée. Tout ce que nous demandons est que les compétences de chaque institution qui sont conformes à la loi soient respectées par tout le monde.
Rappelons qu'après la motion de défiance, le gouverneur Trésor Kapuku a fait un recours auprès de la Cour d'appel de Kananga. Cette dernière a renvoyé l'affaire à la Cour suprême pour déterminer si la procédure de recours est constitutionnelle avant de rendre le verdict. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.